Regard sur le christianisme, aux sources de notre foi, une émission proposée par Catherine Mann et Simon Martin. Appelé Athanase d'Alexandrie, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Hilaire de Poitiers ou encore Jérôme ou Ambroise de Milan. Autour des 4e et 5e siècles de notre ère, ils marquèrent chacun leur façon la pensée chrétienne. Parmi ces pères de l'Église, un personnage plus que tout autre influença la pensée intellectuelle et spirituelle de l'Occident, son nom Aurelius Augustinus, Augustin d'Hippone, plus connu sous le nom de Saint Augustin. Malgré le millénaire et demi qui nous sépare de saint Augustin, il est sans doute un des personnages de l'Antiquité que nous connaissons le mieux. Et ce pour une raison très simple, Augustin est l'inventeur de l'autobiographie. En effet, ses confessions tracent dans le détail une grande partie de sa vie de sa naissance, en 354, jusqu'au début du 5e siècle. Et c'est avec Catherine Mann que nous allons de rechef faire connaissance avec cette figure incontournable de la pensée chrétienne. Catherine Mann, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Alors je le disais, Saint Augustin est né en 354 en Afrique du Nord, alors dans une ville tagaste qui est en Algérie aujourd'hui, quoi, qui serait en Algérie.
Oui, dans l'Algérie, c'est une ville importante, la deuxième après Carthage, mais des villes où il y avait déjà beaucoup de monde et beaucoup de chrétiens.
Alors c'est cette Afrique du Nord, dans l'Empire romain, il a un statut particulier parce qu'on est déjà à une époque où l'Empire romain vacille sur ses bases.
Un petit peu, oui, parce que effectivement, il naît en 354 et on note déjà 355 quelques envahisseurs en Gaule, les Francs, les Alamans, les Saxons. Donc les grandes invasions commencent, mais par le haut. Par le haut, c'est-à-dire que l'Afrique du Nord, elle n'est pas, pour le moment, pas en danger. Mais ce qui va effectivement faire un appel d'air, parce que les gens qui vont fuir, les chrétiens en tout cas qui vont fuir, ou les Romains de haute culture ou un peu riches, on fait comme on fait toujours quand il y a des envahisseurs. On déménage, et donc ils étaient attirés par Carthage, qui était une ville romaine. Voilà, la présence de Rome avec la culture latine, et pas du tout ce qu'on peut imaginer d'une ville de campagne algérienne.
Alors,
c'était très romanisé. Ouais.
Un répit de courte durée, parce qu'on sait que saint Augustin mourra lui-même à Hippone, assiégé par les Vandales. Donc,
Oui. Ah bah oui, ça c'est sûr que... C'est-à-dire ça commence et puis ça ne s'arrêtera pas.
En 430.
En 430, mais en 410, c'est Rome qui est prise. Alors là, vraiment, saint Augustin verra à la fin de sa vie beaucoup de gens arriver et qui espéraient que le christianisme se consoliderait en Afrique. Mais bon, après, à la fin de sa vie, il a vu quand même que ça ne marcherait pas.
Ouais. Et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que cette partie de l'Afrique du Nord, il n'y a plus aucun chrétien, alors qu'il y en a en Égypte avec les Coptes, etc. Dans cette partie Algérie, Maroc, il n'y a plus aucun chrétien.
Il y en a toujours eu, un petit peu. Hein, mais vraiment,
quand l'islam est arrivé...
Oui, il n'y a pas eu de résistance après, jamais. Mais là, il n'y a pas eu de résistance contre les Vandales en Afrique, parce que le christianisme avait déjà eu des problèmes, dirons-nous. Nous verrons ça peut-être un peu plus en détail.
Oui, on verra sa fin également plus tard. Alors, je disais dans l'introduction, on connaît finalement énormément de détails de sa vie, parce que ses confessions commencent même, je crois, juste avant sa naissance. Il se posait la question d'où il était avant sa naissance.
L'intra-utérin. Mais finalement, on lui doit énormément de sciences modernes, de psychanalyse, et puis de connaissances de l'enfant dans le ventre de sa mère. Il y a une telle capacité d'introspection qu'il a ouvert des champs de réflexion. Finalement, on est toujours redevable aujourd'hui, hein, ça c'est évident. Et pas encore tout, à mon avis, on n'a pas encore pris la mesure de ce qu'il a ouvert comme conscience intérieure et connaissance de soi. Il faut relire son œuvre, pas seulement les confessions, mais il avait une telle conscience de lui-même que On n'a pas fini de mettre tout ça en pratique, à mon avis.
Alors, on connaît très bien ses parents, sa mère Monique, qui est chrétienne, et son père, lui, qui est païen. Alors, on imagine donc ses parents sont des notables, mais pas d'une très très grande richesse. Et quand ils comprennent vite qu'ils ont affaire à un petit prodige, et du coup, ils vont avoir pour lui des ambitions démesurées. Alors, Monique.
Démesurées, je ne sais pas si.
À sa mère, quand même, elle souhaite.
C'est une mère.
Voilà, elle lui souhaite un avenir brillant et on imagine qu'il devait être très doué déjà
oui,
tout petit.
C'est-à-dire que quand quelqu'un était doué, on le poussait pour qu'il puisse s'épanouir dans ses qualités.
Parce qu'il avait des sœurs dont on n'entend même pas parler. Sa
oui,
mère,
mais
ça,
c'est des femmes.
Ça, c'est des femmes aussi. Ouais.
C'est rien du tout. Hein, c'est même. Alors, franchement, on pourrait prendre 2 minutes pour la description qu'il fait de sa mère dans les confessions. Pour ma part, moi, ça me dresse un peu les cheveux sur la tête, hein, parce que je peux pas tout lire parce que c'est trop long. Mais enfin, donc elle fut élevée dans les règles de la pudeur et de la bonne tenue. Aussitôt qu'avec les années, elle eut atteint l'âge nubile, on la maria à un homme à qui elle s'assujettit comme au Seigneur. Mais donc, comme vous disiez, c'est qu'il n'est pas chrétien. Donc, elle s'évertua à te le gagner, c'est Augustin parle à Dieu, te faisant connaître à lui par sa conduite. Grâce à quoi tu la faisais belle, objet pour l'époux, d'amour déférent et d'admiration. D'autre part, elle endura si bien les outrages du lit conjugal, moi je trouve cette formule invraisemblable, qu'elle n'eut jamais de ce chef aucune altercation avec son mari. Elle savait quand son mari se mettait en colère ne pas lui tenir tête, non seulement pas un acte, mais non pas même le moindre mot. Donc après, il décrit un peu plus loin. Elle enseigne ses amis dans la vie privée, elle leur dit « Du jour que vous avez entendu lire le contrat de mariage, vous deviez le tenir pour l'instrument qui a fait de vous des servantes. Il fallait partant vous rappeler votre condition et ne pas faire les fiers avec vos seigneurs et maîtres. » Voilà la description par Augustin du statut de la femme et l'idée que Monique elle-même se faisait du statut de la femme. Donc,
alors là, c'est le côté
soumise à son mari, même s'il n'est pas chrétien, parce que sa soumission finira par le gagner, ce qui fut vrai d'ailleurs.
Alors là, c'est le côté soumis, mais elle a un côté
sur son fils.
Sur son fils, il y a maintes exemples où pas tyrannique, je vais pas dire ça, mais abusive. En tout cas, elle connaît tous les ressorts de la culpabilité. Elle s'est suppliée, elle pleure, elle manigance. Elle le suit lorsqu'il part pour Rome, à tel point qu'il est obligé de lui mentir qu'il va avoir un ami, parce qu'elle pleure sur le port, répand en larmes. C'est presque risible.
Je dirais, si j'osais, je dirais que c'est presque une mère juive, mais ce n'est pas le cas. Mais
mère méditerranéenne, en tout cas.
Oui.
Dans toute sa splendeur.
Et elle a quand même fait, à un moment donné, quand il a fait le choix de s'inscrire dans la philosophie manichéenne, elle a piqué une telle colère qu'elle l'a quand même mis dehors. Donc, elle savait aussi mettre les choses en priorité. Mais
d'ailleurs, il ne parle que de sa mère, il ne parle jamais de son père dans les confessions.
Très peu.
Mais alors, sa mère a une place dans les premiers chapitres assez importante.
Elle prend la place. Oui, mais c'est quand même, effectivement, ça frise le pathologique quand même. Mais en même temps, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'elle a tellement culpabilisé. Il vivait quand même avec une femme.
Il s'est marié pendant une quinzaine d'années, c'est pas rien. Et il en parle avec une certaine tendresse dans la confession.
C'est pas forcément un mariage.
Un concubinage, en tout cas.
C'est un concubinage. Parce que comme c'est un concubinage, on suppose qu'elle devait être de basse extraction. Enfin, elle lui a fait un enfant. Et on parle beaucoup. Et Sainte Monique adorait son petit-fils, Adéodat. Mais de la mère, on n'en dit rien.
Non.
À tel point qu'on ne sait même pas son nom. C'est quand même la belle-mère abusive. Elle a poussé à chasser cette femme. Pourquoi ?
Son départ à Milan, effectivement, donc il va abandonner cette femme pour faire carrière et puis faire un beau mariage. Parce
faire
qu'il
un beau mariage, voilà. Exactement. Donc, moi, je trouve Sainte-Monique un peu étonnante, disons pas.
Mais c'est quand même Sainte-Monique.
Voilà. Ben, c'est-à-dire qu'elle a une foi chevillée au corps. Elle est d'une volonté totale parce qu'elle veut que son fils devienne chrétien. Mais comme vous savez, quand on a des enfants, ils ne font pas forcément ce qu'on veut. Et elle n'a jamais lâché le morceau jusqu'à ce que... Donc, cette espèce d'obstination dans la foi en fait une sainte, parce qu'elle a une foi chevillée au corps, au point déjà de convertir son mari, à qui elle était soumise dans les outrages. Mais bon, elle arrive à ses fins jusqu'à ce qu'il... Et c'est ça qui fait qu'une telle ferveur, on ne peut que canoniser. Mais tous les saints ont leurs petits défauts, hein.
Alors, Augustin, lui, va suivre une carrière assez exceptionnelle en culture latine. Il devient professeur de rhétorique. Donc, il part à Rome, dans un premier temps, pour apprendre son métier. Il est fasciné, entre autres, par Cicéron.
Bah, c'est orateur, hein. C'est un métier, à cette
époque-là.
C'est
un métier, oui. Faire des discours pour glorifier l'empereur.
Savoir parler, puis il y a des règles de... Ouais. Les règles du savoir-vivre passent par les règles de l'expression orale, qui sont extrêmement complexes, les règles rhétoriques. Finalement, on reconnaît le niveau intellectuel de quelqu'un à ses capacités de parole.
Alors, il est très doué.
Oui, il est très doué, oui. Et il devient professeur de rhétorique.
Il retourne à Carthage.
Et puis, de nouveau, Rome, et puis Milan. C'est là qu'il,
enfin,
va,
Milan,
qu'il va être vraiment... il devient orateur officiel de l'empereur. Enfin, donc il a vraiment un statut, voilà, qui en impose. Alors, mais il est forcément connu et célèbre, et ça va jouer beaucoup dans son histoire. C'est-à-dire qu'il doit vraiment avoir des capacités hors normes pour être reconnu au niveau impérial, être reconnu dans les circuits des puissants et des dirigeants. Et d'être connu aussi dans le peuple et la foule, on verra plus tard. Ouais.
Alors, il est vraiment intelligent, mais dans le sens, il est à la fois carriériste, il est ambitieux, mais c'est aussi quelqu'un qui réfléchit, réfléchit beaucoup. Et Cicéron et la rhétorique l'emmènent, mine de rien, vers la philosophie et la recherche d'une certaine vérité et sagesse. Pas d'une certaine, de la vérité
enfin,
et de la sagesse.
C'est dans l'air beaucoup à cette époque-là,
c'est
quand même.
Mais il se pose des vraies questions.
La philosophie grecque et la philosophie latine ont laissé des traces. À cette époque-là, on aimait penser, réfléchir, discuter. On creusait, on se posait des questions. À tout niveau de la société, et même dans le petit peuple, la philosophie et la théologie faisaient débat. C'était pour ça qu'on se rencontrait sur les places publiques. On n'imagine pas aujourd'hui où on ne pense qu'à se distraire. À cette époque-là, ce qui faisait l'humain, c'était la réflexion philosophique.
Et il lit également la Bible à cette époque-là et il la trouve terne par rapport à.
Il n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout. Il ne comprend rien du tout. Il a quelques mots. Donc, je vous lis dans les Confessions, au livre 3, quelques passages. Aussi décidai-je d'appliquer mon esprit aux Saintes Écritures et de voir ce qu'elles étaient. Et quel objet s'offre à ma vue, ni démontré au superbe, ni dépouillé à l'intention des enfants, mais une entrée de plein pied, puis des hauteurs à gravir et le voile des mystères. Je n'étais pas en état de pouvoir m'y engager, ni de ployer la nuque pour prendre le pas. À vrai dire, mes paroles d'aujourd'hui ne cadrent pas telles qu'elles avec mes sentiments d'alors, quand je portais les yeux sur cette écriture, mais elle me parut indigne que je la mis en parallèle avec la dignité cicéronienne. Mon enflure aussi bien répugnait à sa modestie. La pointe de mon intelligence ne pénétrait pas dedans. Elle était cependant faite pour croître avec les petits, mais je dédaignais d'être petit. Dans mon faste soufflé, je me faisais l'effet d'être grand. Aussi tombai-je sur des individus en proie au délire d'orgueil, charnel, à l'excès et bavard, etc. Il explique comment il tombe.
Il ne se fait pas de cadeau. Hein. C'est ça la richesse des C'est confessions dire, aussi.
Voilà, la Bible, c'est quelque chose qui n'était pas digne de lui à une certaine époque, comparé à Cicéron. Mais bien entendu, ça n'a rien à voir. La façon d'écrire la Bible n'est pas aussi complexe que la rhétorique romaine, ça c'est sûr.
Et pourtant, il continue à être en recherche. Alors tout en parallèle, il a cette vie facile, légère. Alors ça, il y a énormément de détails dans les confessions où il explique toutes les turpitudes par lesquelles il passe, des amours, des amitiés, le théâtre qui n'est qu'illusion.
Oui,
il a une vie facile et culturelle riche.
Turpitude. C'est son regard de maturité qui voit tout ça. Exactement. Être des turpitudes. Pour nous, aujourd'hui, ça ne serait pas des turpitudes, on appellera la vie culturelle et la vie sociale normale. En fait, il se laissait porter par la société de bon ton, effectivement. Mais après coup, effectivement, il s'est retourné contre tout ça et il l'analyse comme des turpitudes. Alors, peut-être à l'excès, d'ailleurs.
Ouais. Oui, parce qu'il y a la fameuse histoire des poires, qui est assez incroyable, où pendant...
Il se reprochera ça
toute sa vie, d'avoir volé des poires, non pas pour les manger, mais simplement pour enfreindre la loi et les jeter après au cochon. Et alors ça en fait tout un,
ah bah oui,
tout un chapitre, presque.
Mais pour beaucoup de choses, on voit bien qu'après, quand il revient sur son goût pour la musique, justement, ça l'a déchiré pendant des années. Parce que trouver du plaisir à la musique... Et il se révoltait contre ce plaisir des oreilles. Et puis après coup, il disait « Oui, mais la liturgie, quand même, c'est mieux avec de la musique. » Et puis il réfléchissait « Bah oui, mais non, mais c'est mieux. C'est dangereux, la musique, dans la liturgie. » Toute sa vie, ça a été un problème. Mais pas au moment de sa jeunesse. Il suivait, finalement, ce qui, pour nous, est une vie mondaine, normale.
Et il a une vingtaine d'années, entre 20 et 30 ans.
Jusqu'à ses 30 ans.
Alors, mine de rien, il est sur un chemin... En tout cas, c'est comme ça qu'il décrit dans les confessions. Il est sur un chemin à la fois intellectuel et spirituel, comme une conversion graduelle qui va durer comme ça 14-15 ans. Et il passe une grande partie de sa vie, à 9 ans, dit-on, chez les manichéens. C'est une période importante de sa vie, ça.
Ben oui, le manichéisme...
Rappelons un peu, peut-être, oui, ce que...
C'est intéressant parce que ça simplifie quand même. Quand on est en recherche... On aime bien d'avoir des genres de sectes où on vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. À gauche, les bons, à droite, les mauvais. Et si tu ne penses pas comme moi, c'est que je dois te... Ouais. Le manichéen, c'est carrément jusqu'à Dieu. Il y a un Dieu qui est bon et un Dieu qui est mauvais pour expliquer le mal. Et voilà, et cette espèce de dichotomie comme ça qui rend toutes les choses claires. À un moment donné, ça lui a plu parce qu'il dit, bah, dans le fond, là au moins c'est clair, on voit ce qui est bien, ce qui est mal, et il n'y a pas à tortiller. Ça l'a séduit.
Le manichéisme, lui, qui est une religion très récente, du coup, qui était née au IIIe siècle, peut-être on peut imaginer dans l'Empire romain une espèce d'effet de mode de cette nouvelle religion, c'est le IIIe siècle qui vient de Perse,
Ça vient de Perse, c'est une religion exotique, c'est
exotique,
pas une religion
en plus,
romaine.
Mais... Un mélange de zoroastrisme, bouddhisme et de christianisme également.
Oui, c'est des sectes qui font des essais...
Mais qui resteront plus tard, parce que les cathares
ça réussit, parce que les idées simples réussissent toujours, et ça existe encore de nos jours, des gens qui préfèrent qu'on leur dise ce qui est bien et mal, et qu'à la limite, en Dieu, il ne peut pas y avoir de mal, donc il y a forcément un autre Dieu qui le combat, ça existe toujours, ces pensées-là.
Et c'est aussi une vision, malgré tout, très réaliste du monde, quand ils disent que... le monde est un endroit de souffrance, le petit peuple le voit bien que généralement le monde réel pour eux est un endroit de souffrance, et on comprend aussi que cette religion ait pu avoir un essor assez important.
Bien sûr, ce sont les explications les plus simples, satisfont, parce qu'il y a une espèce de tension qui s'écroule, on n'est plus dans l'angoisse, on sait. Moi je pense qu'il y a encore des...
Mais mine de rien, ça le fait avancer, parce que le manichéisme, c'est aussi sacrifier la vie matérielle, et c'est aussi un certain ascétisme, parce que tout ce qui est matériel, et donc les ténèbres, il faut le sacrifier, évidemment, pour aller vers la lumière. Il y a une pareille dichotomie en l'homme, son corps est ténèbres, et puis son esprit est lumière.
C'est un peu comme les gnostiques, en fait, hein, c'est le gnosticisme qui est partout. On l'avait vu un petit peu, le problème du gnosticisme, c'est difficile de le cerner à un endroit. Il se glisse un peu partout. C'est une pente, je dirais presque normale, de la pensée humaine, d'avoir des solutions faciles et radicales, rejeter le corps, etc. Mais il en sort pas indemne quand même, parce que justement, cette espèce de culpabilité qu'il a vis-à-vis de lui-même, à mon avis, c'est des petites traces qui restent de ça. Mais enfin bon,
oui. C'est pas assez... enfin, dans ses confessions, il avoue aussi, exactement comme vous le dites, Catherine, que ce sont des théories assez simplistes. Hein.
Après coup,
mais en réfléchissant, on se dit oui, c'est vrai que c'était un peu simpliste en tout cas.
Ah oui, mais on peut comprendre la séduction sur un homme jeune et qui veut des explications claires et qui. Mais en même temps, après coup, il voit bien que la Bible répond différemment, mais qu'il n'était pas encore capable de comprendre.
Alors, une autre, toujours dans sa recherche spirituelle, un moment important, c'est sa découverte de Plotin. Plotin qui est le néo-platonisme.
C'est
autre chose, parce qu'il y a l'intériorité de Platon, déjà, dedans,
il y a beaucoup de choses là. Il va se passer pas mal de choses au niveau pensée, ça ouvre... Déjà, le néoplatonisme permet justement de faire sauter la dichotomie du bien d'un côté et du mal de l'autre, parce que finalement, il y a une espèce de hiérarchie de valeurs dans l'univers, une hiérarchie d'être. Et alors, c'est une autre explication qui permet de voir la présence de Dieu dans tout, mais à une échelle différente. Et donc, finalement, ça lui plaît bien aussi, cette façon. Et surtout, il découvre... Alors, il faut quand même dire qu'il avait été éduqué dans le christianisme. Il n'était pas converti.
Il avait été baptisé.
Non, il n'avait pas été baptisé. La conversion comporte le baptême.
Oui, oui.
On baptisait que les adultes. Hein. Mais l'enfant...
Il avait fait les premières étapes.
Ils ont une éducation chrétienne. Or, à cette époque-là, on a déjà eu les deux grands conciles qui définissent la Trinité, hein, Nicée et Constantinople. Donc, il a eu certainement des retombées par, je sais pas par où, mais il connaît certainement les résultats, parce que juste dans le peuple même, on connaissait les décisions sur la Trinité venues des conciles. Et il retrouve chez Plotin cette division triadique, disons, avec des concepts philosophiques. Donc ça réconcilie théologie et philosophie. Donc il y a l'un, il y a le nous, et puis il y a la psyché, l'esprit. Donc c'est trois. Et puis ils sont dans toute matière, dans tout être plutôt. Il cherchera les triades, y compris en nous-mêmes. Hein, toutes les images de cette trinité qui sont quelque part dans le vivant et en nous, dans l'âme, plus la mémoire, la volonté, etc. Quelles sont les traces de cette image de la Trinité ? Et tout ça vient de chez Plotin.
Et chez Plotin, il y a aussi l'idée de dépassement de la philosophie, dépassement de la raison, pour aller accéder à autre chose, justement.
C'est remonter à l'un...
L'union mystique avec le divin.
L'union mystique, oui, tout à fait.
Mais il y a un dépassement de la philosophie spéculative... vers autre chose, quoi.
Ça, c'est déjà chez Platon. Hein.
On l'amène au seuil, mais voilà, il y a autre chose derrière, quoi.
C'est déjà chez Platon. C'est du néoplatonisme. Ouais. Donc, il faut quand même voir... Ça donne une perspective à la vie qu'on retrouvera, d'ailleurs, dans les confessions partout. C'est pas juste se regarder le nombril et raconter ses états d'âme. C'est comprendre comment tout ce qui m'arrive peut servir de tremplin et de chemin vers Dieu. Parce que le but de la vie, c'est l'union mystique. Et tout le reste n'est qu'un moyen. Et alors, il veut juste comprendre comment tout peut servir de moyen utile à la montée vers Dieu. Et puis, comment on peut éliminer tout ce qui n'est pas vraiment utile. Et puis, ça donne un sens à la vie, et qu'il a trouvé chez Plotin. Mais aussi, dans la Bible, quand même, petit à petit, ça lui est venu.
Petit à petit, ça lui est venu. Alors, il part à Milan, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, pour faire carrière. Et donc, il est engagé pour faire les discours de l'empereur, des odes à l'empereur. Et là, il va rencontrer Ambroise de Milan, dont nous avons parlé dans notre précédente émission, qui est évêque de la ville. Et là, c'est le coup de foudre.
C'est vraiment un père spirituel hein, pour lui. Il a vraiment... c'est un grand penseur aussi, mais un penseur plus liturge, hein,
plus mature, enfin, qui a déjà,
de la bouteille.
Qui a déjà la bouteille.
Alors, est-ce que c'est lui, je pense, qui lui a fait goûter Saint-Paul ? les épîtres qui ont fini par faire un chemin. Saint Ambroise avait traduit la Bible en latin, quoi. Avait une des formules de la. Parce que je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent qu'on est quand même pas encore sorti de la culture grecque. Hein, et que Saint Augustin avait autant en horreur la culture grecque qu'il avait en horreur la Bible. Et la Bible existait en grec, mais il ne comprenait pas non plus les pères grecs. Il a eu du mal, il le dit dans ses mémoires, à apprendre le grec. C'était une langue qui ne lui plaisait pas du tout. Enfin, et je trouve ça tellement important, tous ces textes qui disent contre le grec et ses souffrances à apprendre cette langue, ça montre déjà que l'Église était fissurée entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Parce qu'on a une date, 1054, on dit le schisme, mais le schisme, il est venu très lentement. Il est venu très lentement. En fait, dès après les 3-4 premiers conciles, on a vu, il y a eu celui du concile de Constantinople, où l'Orient a affirmé ses propres valeurs. Rome s'est déjà un peu séparée. Et Augustin, il est romain, il est latin, et il est imprégné de culture romaine, et il a déjà pris ses distances vis-à-vis de l'Église d'Orient. Ça se fait petit à petit. Donc, Ambroise de Milan, lui, la Bible, il l'a traduite en latin.
Et là, ça lui parle soudain, Saint-Augustin. Oui. Alors, c'est étonnant parce qu'il a cette conversion, comme on l'a dit, graduelle pendant plus de 14 ans, mais il y a aussi un caractère de soudaineté. Il parle d'une grande lumière, on pense à Saint-Paul, d'ailleurs.
Oui.
Après sa conversion, donc à Milan, eh bien, Saint Augustin repart pour sa ville natale, de l'autre côté de la Méditerranée, et puis il renonce à toutes ses ambitions.
Ah oui, mais c'est plus que ça. Il va suivre justement Saint Paul, qui demande carrément certains renoncements, dont le célibat et la chasteté, la vie parfaite. Enfin, plus. Un peu la morale de Sainte Monique. Il va s'orienter carrément vers la vie monastique. Il se fait baptiser, mais pas pour continuer à vivre une vie normale, une vie vraiment de reclus contemplatif.
Une vraie conversion dans le sens étymologique.
Quitter du terme, le monde, et, au sens physique autant que géographique, se couper de tous ces vices commis. Bon, après, ça changera. Mais bon, son premier choix, c'est devenir un pur ascète.
Eh bien, Catherine, merci beaucoup. Là, notre émission touche à sa fin. Nous verrons la suite de la vie de Saint-Augustin le mois prochain.
Mais ça va tourner comme il ne voulait pas.
Ça va tourner comme il ne voulait pas, oui, on le verra. Il n'est pas au bout de ses surprises. Alors forcément, quelques livres, il y a les Confessions, évidemment, qui sont peut-être la porte d'entrée pour Saint-Augustin, mais il y a d'autres livres, il y en a d'autres derrière aussi, qui sont très importants.
Je ne sais pas, je vous ai dit, il y a une vie de Saint-Augustin de Peter Brown, qui est paru en poche, collection Point. Si vous pouvez retrouver quand même dans les vieux bouquins, le livre sur Saint-Augustin d'Henri Irénée Marou, qui était le spécialiste du christianisme antique. C'est un petit livre pour entrer dans Saint-Augustin, mais qui est formidable.
Catherine, merci beaucoup.
Merci à
et
vous.
Et à très bientôt.
Et à bientôt.